Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant le journal de Christophe Lamar. Juste après, on ouvrira le débat du Club des Idées. C'est la journée internationale du sommeil. Et vous savez quoi ? Eh bien, mal dormir, ça n'est pas une fatalité. L'insomnie gâche vos nuits et peut-être vos jours. On dit que c'est le mal du siècle. C'est vrai que le climat actuel n'arrange rien. Eh bien, des spécialistes seront à mes côtés pour vous expliquer comment sortir de cette spirale infernale. Rendez-vous d'ici un peu plus de 20 minutes. Juste avant, ce sera la carte blanche du jour avec ce soir Éric-Emmanuel Schmitt qui nous parlera de doute et de méfiance, je vous en dis pas plus. D'abord le point sur l'info, tout de suite avec vous Christophe Lamar. Il est 19h, merci d'écouter Europe 1.
À minuit, les Hauts-de-France et l'Île-de-France passeront en mode confinement, confiné, mais avec la possibilité de sortir. On s'y perd un peu. On va voir ce qu'il sera désormais possible de faire et impossible de faire.
Et puis nous irons à Rouen également, où la décision de confiner a surpris les habitants et où elle passe très mal. Certains la vivent même comme une punition.
Il y a aussi ceux qui cherchent à tout prix à y échapper, comme lors des deux premiers confinements. L'appel du Grand Large a été le plus fort. Beaucoup de monde dans les gares au départ de Paris. Nous serons à Nantes pour accueillir les premiers arrivés qui ont choisi la Bretagne.
AstraZeneca a donc reçu le feu vert, mais les Français lui font-ils encore confiance ? Reportage dans une pharmacie.
Le procès de Jean-Noël Guérini à Marseille, soupçonné d'avoir truqué les marchés publics, l'ancien patron du PS était entendu pour la première fois. Et puis la saison de Formule 1 reprendra dimanche prochain à Bahreïn, mais sur les écrans, elle est déjà partie. Netflix lance aujourd'hui la saison 3 du documentaire Formula One.
La météo, Anissa Haddadi, et la fraîcheur qui se maintient.
Oui, avec de nombreuses gelées matinales et des températures qui auront du mal à grimper demain après-midi malgré le retour d'un très beau soleil. Dans le ciel, les nuages s'accrochent dans le sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le couvre-feu est en vigueur depuis une heure, mais pour les habitants de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, il va falloir plus que jamais bien mettre sa montre à l'heure. À minuit, le confinement entrera en vigueur et c'est vrai qu'il est plus souple que le premier, celui du mois de mars. Et justement, Jean-Sébastien Soldaini, entre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, on s'y perd un peu concrètement demain. Qu'est-ce qui va changer ?
Eh bien, pour ce qui est des déplacements, difficile d'appeler cela un confinement stricto sensu. Vous pouvez sortir sans limitation de durée entre 6h et 19h, avec toutefois deux barrières à ne pas franchir, celle des 10 km autour de votre domicile et celle de la limite régionale. Impossible donc de quitter l'Île-de-France, les Hauts-de-France, hors motif impérieux. Le gouvernement mise sur la responsabilité des Français placés sous ce régime. Il entend aussi nous permettre de profiter de l'allongement des journées pour que nous puissions nous aérer, sachant que le virus se propage moins en extérieur. Attention, malgré cette apparente souplesse, il faudra toujours avoir sur soi une attestation, que ce soit pour faire du sport, pour aller dans certains commerces. La liste exacte de ces commerces n'est pas encore connue. C'est toujours en discussion en ce moment même, mais à peu de choses près, ce sont les mêmes établissements, ceux qui vendent des biens dits de première nécessité, qui peuvent rester ouverts, les mêmes établissements qu'au deuxième confinement, avec en plus cette fois les libraires, les disquaires et les coiffeurs, auxquels pourraient notamment s'ajouter les fleuristes.
Précision nécessaire, signé Jean-Sébastien Soldaini. Merci Jean-Sébastien. À Rouen, c'est la douche froide pour les habitants de l'agglomération et de la Seine-Maritime, puisque ce confinement, eh bien, ils ne l'avaient vraiment pas vu venir.
Non, c'est vrai, ils pensaient bien y échapper, sauf que le taux d'incidence est de 278 cas pour 100 000 habitants. C'est bien au-dessus de la moyenne nationale, des chiffres inquiétants. Et pourtant, les Rouennais pensaient échapper au confinement. C'est donc un véritable coup de massue, Laura Taouchanoff.
Eh bien oui, sur le marché de Rouen cet après-midi, les annonces font clairement de l'ombre à ce beau soleil. Beaucoup de surprises ici, vous l'avez dit Christophe. Nadine pensait passer entre les mailles du filet, au moins pour ce week-end.
On était limite rouge, mais on n'était pas rouge. Donc c'est vrai que ça a été vraiment une surprise. Et le fait est que je ne vois pas tellement ce que ça va donner de plus que de réenfermer les gens à 7 heures et de ne pas pouvoir bouger à 10 km. Si on avait réglé le problème avant avec les lits de réanimation, plus de lits de réanimation, on n'en serait pas là, puis là je crois pas que ça va donner grand chose.
Comme l'a dit Nadine, à Rouen on est juste en dessous du seuil d'alerte, mais les services de réanimation ici sont déjà quasiment saturés, sauf qu'au bout d'un an de crise, ce reconfinement a beaucoup de mal à passer auprès de Corinne, bien qu'elle soit asthmatique sévère et donc personne à risque.
Je ne vois pas pourquoi on empêcherait 90% de la population de vivre à cause de gens comme moi. Je ne trouve pas ça raisonnable. On est capable de se protéger, nous, il y a des choses qui peuvent être faites. Qu'on ferme les grandes surfaces. En plus, elles peuvent survivre. C'est un non-sens.
Et justement, les commerçants attendent le fameux décret listant les établissements obligés de fermer. Pour l'instant, les coiffeurs échappent au confinement.
Le reportage de Laura Taouchanoff à Rouen. Alors, il y a ceux qui vont devoir subir donc ce confinement ou composer avec. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas du tout vivre enfermés, encore une fois. À Paris, certains ont cherché à partir par tous les moyens.
Certains ont même pris l'avion. Beaucoup sont encore en voiture à l'heure où nous parlons. Et enfin, d'autres ont choisi le train. Dès l'annonce du Premier ministre, les réservations SNCF ont explosé. Et sur les quais ce matin, comme cet après-midi, il y avait du monde dans les TGV. Où allait-il donc ? Eh bien à Nantes, notamment, où les trains bondés se sont succédés, Charles Guillard.
Oui, en effet, toute la journée, les TGV en provenance de Paris ont déversé de nombreux franciliens sur les quais de l'ouest de la France. À Nantes, depuis ce matin, cela ne s'est pas arrêté. Certains avaient d'ailleurs anticipé le mouvement, comme Sébastien, par exemple, qui avait lui réservé sa place en tout début de semaine, dès les rumeurs d'un reconfinement.
Moi, j'avais pris mes dispositions, j'ai un peu fait le pari, donc je l'ai pris mardi soir. C'est normal, j'avais prévu à la fois les prix et puis l'affluence. Donc effectivement, on l'a vu hier soir, je crois que les trains étaient complets en moins d'une heure, donc j'ai eu raison. Donc.
Julien aussi avait pris les devants. Pour lui, pas question de rester cloîtré dans quelques mètres carré à Paris.
Vu les annonces, vu que ça présageait rien de bon, je préférais venir. Comme ça, je reste pas chez moi pendant un mois à rien faire. Au moins, j'ai la liberté de pouvoir aller profiter, de vivre. C'est le plus important. On oublie de vivre en ce moment.
Un sentiment d'évasion, une parcelle de liberté à 2 heures de Paris qu'on vient trouver chez des amis bien accueillants, des parents ou dans une résidence secondaire pour les plus chanceux.
On a une maison en province, on a de la famille, on fait comme on peut.
En tout cas, l'idée est claire pour tout le monde, être loin de la capitale pour les 4 prochaines semaines.
C'est plus cool le confinement à Nantes qu'à Paris, effectivement.
Un reconfinement certes moins stressant en province, mais sans oublier qu'ici aussi, dès demain, il faudra quand même être rentré à la maison chaque soir à 19h.
Charles Guillard, correspondant d'Europe 1 à Nantes. Ce confinement, Christophe, qui aura un coût pour les caisses de l'État.
1,2 milliard d'euros supplémentaires à débourser. Le total des aides versées aux entreprises dans le cadre du quoi qu'il en coûte va donc passer à 7,2 milliards mensuels au lieu de 6 milliards.
Chez nos voisins européens, le variant britannique fait aussi exploser les chiffres de contamination, notamment en Allemagne.
Plus de 17 000 nouveaux cas d'infection et un taux d'incidence qui s'approche de la barre fatidique censée déclencher de nouvelles restrictions. La chancelière Angela Merkel et les présidents des 16 régions se réunissent lundi pour en discuter.
Europe 1 à 19h06, c'est l'autre grand titre de la journée. Après l'Agence européenne du médicament, la Haute Autorité de Santé autorise à nouveau le vaccin AstraZeneca.
Mais avec une recommandation, seuls les patients âgés de 55 ans ou plus pourront utiliser ce sérum. La Haute Autorité constate que les rares cas graves de thrombose se sont produits chez les moins de 55 ans.
Alors il va falloir maintenant convaincre les patients d'accepter l'AstraZeneca. Ça ne sera pas forcément très simple. Selon un sondage Odoxa, 56% des Français ne lui font plus confiance.
Et c'est aussi pour cette raison que le Premier ministre a retroussé une manche de sa chemise pour recevoir sa première injection devant les caméras. Est-ce que cela sera suffisant ? C'est ce que vous avez voulu savoir, Jean-Gabriel Bourgeois. Vous êtes allé dans une pharmacie à Montreuil, en région parisienne.
Eh bien, visiblement, aucun souci pour remplir le carnet de rendez-vous aujourd'hui. Dès hier soir, après l'annonce des autorités sanitaires de la reprise de la vaccination avec AstraZeneca, Hicham Jaber, le pharmacien, a pris son téléphone. Il lui restait un flacon, 10 patients à trouver.
Ça allait très très vite. Il y a un vrai engouement, les gens veulent se vacciner. Je pense qu'il y a vraiment une pédagogie à mettre en place, des chiffres aussi à annoncer. Si on confronte ces chiffres, on rassure automatiquement les Français.
Le dernier patient à avoir reçu une injection aujourd'hui, c'est Denis, 57 ans. Il est bien dans la tranche d'âge, les plus de 55 ans, et il n'a pas eu besoin d'être rassuré.
Je ne me suis pas trop posé de questions. Je crois qu'il n'y a eu que quelques cas sur des millions de gens qui ont été vaccinés. Donc j'ai confiance. La Covid a touché ma famille. J'ai ma mère qui est décédée il y a 2 mois. Et j'ai mon frère qui a été hospitalisé pendant 15 jours en soins intensifs. Donc je n'ai pas envie d'être le prochain. C'est pour ça que je voulais. C'était très important pour moi de me faire vacciner.
L'injection s'est très bien déroulée, m'a-t-il expliqué. Pas d'effet secondaire quelques minutes après la piqûre. Denis a pu repartir en bus, soulagé d'avoir pu être vacciné sans attendre plus longtemps.
Jean-Gabriel Bourgeois.
Si vous rencontrez des problèmes actuellement pour envoyer des messages avec Facebook, avec WhatsApp ou avec Instagram, c'est normal. Enfin non, ça n'est pas normal, mais vous avez une explication, Clément Le Saffre.
Oui, parce que c'est une panne généralisée de Facebook. Des bugs sont signalés en France et dans plusieurs pays du monde depuis 18h30 environ. Toutes les entités du groupe sont touchées, Facebook évidemment, mais aussi WhatsApp, Instagram et Messenger. Impossible donc de poster des photos, d'envoyer des messages, voire parfois d'actualiser son fil Facebook. Le site Down Detector, qui recense les signalements des internautes, a le compteur qui s'affole. Pour Instagram, par exemple, en quelques minutes, le nombre d'appels à l'aide simultanés est passé de 0 à 20 000. Cette panne pourrait venir directement à des serveurs centraux de Facebook. C'est impressionnant, un peu dérangeant, mais ça arrive régulièrement. Ça dure en général quelques heures avant que tout revienne à la normale. La dernière panne du genre, c'était il y a 3 semaines. Facebook et Messenger avaient connu des ralentissements pendant 2-3 heures environ. Si on en reste là, cette fois, ça devrait aller. Ça commence déjà à se remettre sur certains sites, notamment WhatsApp. Là, on peut renvoyer. J'ai essayé il y a quelques secondes. Là, Il y a un message qui a l'air d'être parti, donc ça a l'air de revenir. En revanche, si ça dure et si ça s'aggrave, on va peut-être s'inquiéter pour notre vie 2.0.
Ouais, je sais que vous êtes ultra connecté, surtout. Vous, ça va, vous tenez le coup, Clément
ça
Le
Saffre. Je tremble un petit peu, mais ça va le faire.
Merci Clément Le Saffre.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h11, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre avec la suite du procès de Jean-Noël Guérini à Marseille. L'ex-président socialiste des Bouches-du-Rhône poursuivi pour corruption présumée dans le traitement des déchets.
11 autres prévenus l'accompagnent, mais la personnalité de Jean-Noël Guérini capte évidemment toute la lumière. Il était entendu pour la première fois ce matin avec cette question, Stéphane Burgat. L'ancien président du Conseil Général a-t-il profité de son statut pour favoriser son frère, patron d'une entreprise de traitement des déchets ?
Et des zones d'ombre à lever autour d'un terrain acquis dans l'urgence par le Conseil Général au nom de la préservation d'une espèce endémique de fleurs, terrain qui finira par être cédé à une communauté d'agglomération pour agrandir une décharge et dont la gestion profitera in fine à l'entrepreneur Alexandre Guérini. Les magistrats s'interrogent sur des intérêts secrets. Jean-Noël Guérini suit scrupuleusement pour sa part ses notes qu'il a disposées sur son pupitre. Jean-Noël Guérini peine à rester en place au cours de l'audience. Plusieurs écoutes téléphoniques sont diffusées pour comprendre les liens qui unissent les frères Guérini. Des appels où Alexandre, très directif et dans un langage fleuri, demande à Jean-Noël de servir d'intermédiaire pour l'arranger dans ses affaires. Mais le sénateur se défend. Mon frère a la maladie du téléphone. Je lui laisse c'est croire que j'intercédais en sa faveur, mais je ne faisais absolument rien. Jean-Noël Guérini, qui le répète à l'envi depuis lundi, sa droiture dans ses mandats successifs est restée exemplaire.
Le reportage de notre correspondant à Marseille, au tribunal correctionnel.
La saison de Formule 1, ça reprend la semaine prochaine. Ça, c'est pour le sport, mais la Formule 1, ça peut être aussi sur son canapé avec ce formidable documentaire sur les coulisses de la F1.
Ça s'appelle Formula 1 et Netflix lance la saison 3 ce soir. Quand on parle de F1, très souvent, on a droit à un haussement d'épaule, pas intéressant, les voitures qui tournent sur un circuit, c'est monotone, etc. C'est une erreur. Ce documentaire est passionnant. Même ceux qui n'y connaissent rien adorent. Margot Barallon.
Comme beaucoup de gens de sa génération, Marianne, 26 ans, a connu la Formule 1 à la télé quand elle était petite, sans y accorder grand intérêt, jusqu'à ce que l'algorithme Netflix lui suggère de regarder Formula 1. Une révélation.
J'ai tout regardé jusqu'à 2h du matin. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le côté humain. Tu vois qui sont chaque pilote, quelles sont même leurs relations entre eux au sein d'une écurie. Du coup, je regarde les courses dès que je peux. J'ai pris des places pour aller voir la F1 au Castellet cet été.
Jonathan, lui aussi, s'est mis à regarder la F1 après avoir dévoré Formula 1. Et pour lui, la série montre bien plus que ce qu'on peut voir à la télé.
Quand tu suis la course, tu vois les voitures en piste, mais très peu ce qui se passe dans les stands. Tout ce qui est un peu technique, la bataille de la troisième place.
Et c'est bien cet aspect coulisse qui plaît au grand public, selon le journaliste Daniel Ortelli, qui a suivi la F1 pour l'agence France Presse.
On sent vraiment que c'est authentique. Ils ont eu des accès aux équipes que personne n'avait jamais eu auparavant. On n'a jamais écouté des discussions entre des team managers et des pilotes. On voyait le départ de la course, la fin de la course. Entre-temps, on faisait la sieste et on ne savait pas qu'il se passait tout ça.
Alors pour savoir si cet engouement sur Netflix se traduira dans les gradins, il faudra encore attendre la levée du huis clos imposée par la crise sanitaire.
Margot Barallon, voilà, Formula 1 saison 3 ce soir. La vraie fin, vous l'entendez, mais celle que l'on pilote remettra le contact de la semaine prochaine à Bahreïn sur le circuit de Sakhir.
Et c'était le journal de Christophe Lamarre. Merci et bon week-end Christophe. La météo, Anissa Haddadi, avec toujours de l'instabilité demain, en tout cas dans le sud. Hein.
Oui, alors sur les Pyrénées, précisément Isabelle, les nuages s'accrochent encore demain. Nous aurons des petites chutes de neige à basse altitude dans la matinée. En Provence, Alpes, Côte d'Azur et jusqu'en Corse, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Dans le sud de la Corse d'ailleurs, hein, nous aurons des averses demain et de la neige, là aussi à basse altitude à partir de 400 mètres toute la journée. Le Mistral et la Tramontane soufflent toujours dans le sud demain, partout ailleurs. Après la dissipation des brouillards dans l'est, le soleil s'impose dans un ciel bien plus dégagé. C'est un premier jour de printemps qui va ressembler à un vrai premier jour de printemps, c'est-à-dire lumineux, assez ensoleillé, mais froid. Parce que les températures, elles sont encore en dessous des normales de saison avec des gelées dans le Grand Est, l'Auvergne, le Centre et la Vallée du Rhône demain matin. Nous aurons 2 à 5 degrés partout ailleurs. Et puis seulement 5 à 14 degrés demain après-midi, 5 à Belfort, 8 à Rodez et Metz, 9 pour Lyon, 10 à Paris et Cherbourg, 11 à Lille et Toulouse, 12 à Bordeaux et 14 la maximale pour Nice et Lorient.
Merci beaucoup Anissa, on vous souhaite un très bon week-end.
Bon week-end.
19h15, dans un instant, on vous aidera à venir à bout de vos insomnies en cette journée internationale du sommeil. Mais d'abord, la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric-Emmanuel.
Bonsoir Isabelle.
Alors, vous voulez donner un coup de griffe à ceux qui confondent le doute et la méfiance.
Oui, il me semble en effet que certains d'entre nous
confondent le doute et la méfiance. C'est une confusion qui non seulement empoisonne leur esprit, mais qui paralyse la société.
Alors quelle différence faites-vous entre justement doute et méfiance ?
Le doute, c'est une attitude rationnelle. Il remet en question les évidences, il interroge les principes établis, il secoue les hypothèses ou les théories pour vérifier qu'elles sont valables. Le doute avance, le doute cherche la vérité et Descartes, le philosophe et savant Descartes, en faisait même une méthode qu'il appelait le doute méthodique. Bousculer les affirmations pour voir si elles cèdent ou si elles résistent. Rien de plus sain ni de plus honnête intellectuellement que de se servir du doute. Mais attention, le doute offre un moyen, pas une fin. Il ne constitue pas le résultat final, mais le chemin vers le résultat final. Le doute appelle à être dépassé pour arriver à une formulation solide. Il est provisoire, nous dit Descartes. Il ne saurait devenir un état.
Et la méfiance alors ?
Eh bien justement, la méfiance est un état. Elle consiste à suspecter tout ce qui est dit ou entrepris. La méfiance ne se donne pas comme un moyen d'arriver à la vérité. La méfiance ne cherche plus. Elle a trouvé. Elle est une attitude, voire une posture. La méfiance n'est en rien provisoire comme le doute. Elle critique non pour arriver à supprimer la critique, elle critique pour installer la critique. Elle établit une atmosphère de suspicion lourde, généralisée, définitive. En ce moment, par exemple, cette époque troublée, les méfiants pullulent. Ceux qui se méfient des vaccins en général, ceux qui se méfient de tels vaccins particuliers, ceux qui se méfient du confinement, etc. Le méfiant qui critique les études scientifiques, par exemple, sur les conséquences des vaccins, il ne cherche pas la vérité, car dès qu'on lui donne des éléments qui lui permettraient de conclure scientifiquement, il hausse les épaules ou il devient sourd. Il ne changera pas d'avis. La vérité, il s'en fout. À la vérité, il préfère la défiance, l'opposition.
D'accord, mais qui gagne-t-il ?
Je crois que le méfiant gagne l'impression d'être intelligent. Plus intelligent que les autres, ces idiots qui ont confiance, ces scientifiques qui sont vendus à la riche industrie pharmaceutique ou ces politiques minables et incompétents. À lui, on ne la fait pas. Il acquiert à ses propres yeux l'idée de sa supériorité. Il méprise ceux qui ne pensent pas comme lui.
Donc cette impression d'être intelligent, c'est selon vous une illusion ?
Là se cache l'erreur en effet, Isabelle. Le doute est une des armes de l'intelligence et la fait progresser. Le doute finit par supprimer le doute. On sort du doute par le doute. Tandis que la méfiance ne supprime pas la méfiance. Elle n'en finit jamais avec elle-même, elle s'épaissit. On ne sort pas de la méfiance par la méfiance, on y stagne. La méfiance est funeste, envahissante, délétère. Elle me paraît une maladie individuelle, mais une maladie contagieuse qui gangrène les esprits et bloque parfois la société.
Mais comment guérir de cette maladie ?
On ne se guérit pas de la méfiance en devenant confiant. D'abord parce que cette mutation se révèle impossible. Ensuite, être confiant, ce n'est pas se montrer plus intelligent qu'être méfiant. Méfiance ou confiance demeurent des attitudes extra-rationnelles. On ne se guérit de la méfiance que par le doute, justement. C'est-à-dire en se servant d'une méthode qui permet d'écarter les faussetés et de conserver les vérités. En ce moment, c'est la science qui est en train de sauver l'humanité de la pandémie. C'est elle qui apporte des traitements et des vaccins. Et pourquoi le fait-elle ? Parce qu'elle a su utiliser le doute. Alors, je le répète, ne confondons pas. Le doute sauve, la méfiance détruit. Et seul le doute nous délivrera de la méfiance.
C'est bien noté, on va pouvoir méditer là-dessus. C'était la carte blanche d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup à vous, Éric Emmanuel.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
C'est l'heure de votre débat du Club des idées sur Europe 1, il est 19h23. Le manque de sommeil, le mal du siècle, paraît-il. On s'y intéresse ce soir sur Europe 1, le sommeil qui a sa journée internationale et c'est aujourd'hui, ça tombe bien. Les troubles du sommeil concernent beaucoup, beaucoup de monde et c'est préoccupant car mal dormir, c'est mettre sa santé en danger. Ça peut avoir des conséquences sur votre concentration, votre travail, votre bien-être, tout simplement. C'est un cercle vicieux, souvent source d'angoisse et en ce moment, on n'a pas vraiment besoin d'en rajouter. D'où l'intérêt ce soir d'en parler, de mieux comprendre pourquoi on dort mal. et surtout de vous donner les clés pour tenter de retrouver un sommeil apaisé. À mes côtés ce soir pour en parler, le docteur Sylvie Royan-Parola, psychiatre spécialiste des troubles du sommeil, présidente du réseau Morphée, Constance Flamand-Rose qui est hypnothérapeute et docteur en neurosciences, et le docteur Cécile Martineau, médecin du sommeil au centre interdisciplinaire du sommeil. Autant vous dire que je suis très bien entourée, que je devrais bien dormir ce soir. Bonsoir mesdames, merci beaucoup à toutes les trois de m'accompagner ce soir. Alors près de la moitié des Français disent qu'ils dorment mal, 45% très précisément, je crois, affirment connaître que des troubles du sommeil, d'après une étude récente. On parlera, si vous le voulez bien, un peu plus tard de l'incidence de la pandémie sur ces troubles, c'est une évidence, mais je voudrais d'abord qu'on pose le débat. On est donc nombreux à avoir le sentiment de mal dormir, mais c'est assez subjectif finalement comme notion. Qu'est-ce qu'on appelle mal dormir ? À partir de quel moment ça devient un problème, Sylvie Royan-Parola ?
Mal dormir, ça peut être des difficultés pour s'endormir ou des réveils dans la nuit ou bien un réveil trop tôt le matin. Mais ça veut dire nécessairement, enfin on parle d'insomnie quand il y a aussi une gêne le lendemain, c'est-à-dire une fatigue, des difficultés à faire les choses, des troubles de la mémoire, une irritabilité. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un retentissement le lendemain. Et il faut aussi que ce soit quelque chose qui dure, c'est-à-dire au moins 3 fois par semaine. Et là, il faut vraiment s'alerter. Si c'est pendant plus de 3 mois, là, il faut vraiment consulter.
Bon, alors pour être sûr qu'on a mal dormi, le lendemain, on n'est pas bien. Et à l'inverse, comment être sûr que son sommeil est de bonne qualité, Cécile Martineau ?
Alors, on juge que son sommeil est de bonne qualité justement sur ses perceptions du lendemain, sur le fait d'être en forme, d'avoir une bonne concentration, une bonne attention, de ne pas être irritable. Donc, c'est vraiment la journée, en fait, qui est le meilleur, finalement, repère sur la qualité de notre nuit.
Est-ce qu'il y a une durée idéale du sommeil, comme on connaît, 10 000 pas par jour, 5 fruits et légumes par jour ? Est-ce qu'il y a un chiffre comme ça sur notre sommeil ?
Non.
Sylvie Royan-Parola.
Globalement, effectivement, il faut dormir plus de 6 heures ou plus de 7 heures, ça dépend. En tout cas, en toutes 6 heures, on se met vraiment en danger. Maintenant, après, les durées de sommeil, c'est une notion très, très individuelle et vous avez des très courts dormeurs et des très longs dormeurs. Vous avez des gens qui vont avoir vraiment besoin de 11 heures de sommeil par nuit.
Oui,
contre
c'est
d'autres,
ça.
La moyenne, c'est 7h45.
Voilà. Parce qu'on cite souvent des grands hommes qui, paraît-il, dormaient très peu, s'en sortaient très bien. On dit aussi que c'est le cas d'Emmanuel Macron. Comment savoir de combien d'heures réellement on a besoin, Cécile Martineau ?
Eh bien, on en revient au fait de...
C'est toujours le constat au réveil.
Comment se sent la journée ? Voilà, exactement. Si vous fonctionnez bien la journée, c'est que vous avez votre quantité d'air suffisante.
Bon, Constance Flamand-Rose, je rappelle que vous pratiquez l'hypnose thérapeutique. Est-ce que vous avez beaucoup de patients qui vous consultent pour des problèmes de sommeil ?
Énormément et de plus en plus. De plus en plus de patients, oui.
Oui. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, sur une semaine moyenne, vous avez plusieurs personnes qui peuvent venir vous voir pour des problèmes de sommeil ?
Alors, sur environ 2 jours où je suis au cabinet dans la semaine, je peux avoir quasiment la moitié, quasiment 50% de demandes en ce moment.
Et vous avez constaté qu'il y en avait de plus en plus avec la période que nous vivons en ce moment ?
Oui, alors de plus en plus, mais la demande n'est pas forcément celle-là initialement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui vont venir initialement pour un problème de stress, d'anxiété, ces problèmes presque d'enfermement dont ils parlent très directement. Et finalement, quand on discute avec eux, là, le trouble du sommeil va ressortir. Et ça va être « et en plus, je dors mal ».
Oui. Et alors, certaines catégories d'âge sont-elles plus affectées que d'autres par ces troubles du sommeil, Cécile Martineau ?
Oui, particulièrement les adolescents et les jeunes adultes. C'est vrai que c'est un âge de transition et ils sont de fait plus exposés en fait aux troubles du sommeil. Et notamment avec la situation actuelle, on a plus de troubles dans cette population.
Oui, il y a certains experts qui ont, paraît-il, un terme pour cela, coronasomnie ou covid-somnia. Ça confirme en tout cas qu'il y a un côté psychologique important qui peut justifier ces insomnies, hein, Sylvie Royan-Parola.
Ah, il y a un énorme retentissement psychologique, à la fois parce que... Alors, ça va dans les deux sens. Hein. La situation elle-même va entraîner une anxiété importante, et notamment chez les jeunes, des éléments dépressifs avec des dépressions. Et là, toutes les études convergent. Les 18-24 ans sont vraiment très, très à risque. Mais inversement, quand on dort mal, on va fragiliser non seulement son sommeil, mais sa résistance psychologique. Et ça peut être un facteur précipitant au niveau de l'anxiété, sûrement, mais surtout de la dépression.
Oui,
donc bon, ça marche vraiment.
D'où l'importance de poursuivre ce débat. Dans un tout petit instant, on verra notamment quels sont les facteurs qui favorisent l'insomnie et les dangers pour notre santé de mal dormir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h31, ce soir en cette journée internationale du sommeil. On débat sur Europe 1 de la qualité de nos nuits. Vaste sujet. On entre dans votre chambre à coucher, avec votre autorisation bien sûr, pour comprendre pourquoi vous dormez si mal. Mes invités sont là pour vous aider à apprécier de nouveau vos nuits et à vous donner les clés d'un sommeil apaisé. Le docteur Sylvie Royan-Parola, psychiatre, spécialiste des troubles du sommeil, présidente du réseau Morphée. Constance Flamand-Rose, hypnothérapeute et docteur en neurosciences. Et Céline Martineau, médecin du sommeil au Centre interdisciplinaire du sommeil. Dites-nous, quels sont les facteurs qui favorisent les insomnies, Céline Martineau ?
Alors, il y a différents facteurs. Le facteur stress, anxiété est très important parce que l'anxiété, ça crée en fait un mécanisme d'éveil, donc une certaine hypervigilance. D'autres facteurs sont l'irrégularité des rythmes, le fait d'avoir des horaires de sommeil, de repas, de vie irréguliers, le manque de sport, hein, d'activité sportive. Et on a aussi les écrans qui sont très importants et qui entraînent de l'éveil et qui retardent souvent l'endormissement.
Ça veut dire qu'en ce moment, on a tous ces facteurs réunis en un seul avec ces confinements à répétition, hein, Sylvie Royan-Parola.
Actuellement, oui, on multiplie les facteurs qui font qu'on est dans une situation où finalement le sommeil ne peut que se déstructurer. Et notamment, il y a une chose qu'on a observée dans les études qui ont été faites sur le confinement, c'est que les gens passent globalement plus de temps dans leur lit, ce qui est aussi un facteur de déstructuration du sommeil. Alors, il y a ceux qui arrivent à dormir plus, ça c'est plutôt bien parce qu'on est globalement en privation de sommeil. Mais quand on passe énormément de temps dans son lit, 11h, 12h, nécessairement on va avoir un sommeil qui va se fractionner. Ouais. Et donc, on entraîne après une pérennisation d'un mauvais sommeil, alors qu'a priori, on n'a probablement pas de trouble au départ.
Et alors souvent, on se dit, bon, je ne dors pas très bien, ce n'est pas si grave. Mais en fait, on se trompe, c'est grave de ne pas dormir assez, hein.
Oui.
Allez-y, oui. C'est très pertinent.
Non, mais le sommeil, c'est un rôle fondamental, hein, dans notre corps, comme la respiration. Hein, ça permet vraiment aux organes de fonctionner. C'est un rôle dans les défenses immunitaires. C'est un rôle au niveau cognitif, que ce soit la concentration, l'attention, la mémoire. Et un rôle dans notre bien-être psychologique.
Hein. Ouais. Et donc, avec aussi des risques accrus de maladies, d'obésité, de diabète,
exactement,
etc.
D'hypertension artérielle.
Ouais, de maladies cardiovasculaires. Alors, en plus de tous ces problèmes de santé, le manque de sommeil, il entraîne souvent une souffrance psychologique parce que la nuit, quand on ne dort pas, ben, on ressasse des choses dans sa tête. Et je voudrais qu'on prenne un auditeur en ligne. Bonsoir Arnaud Martin.
Oui, bonsoir.
Vous faites partie de ces Français, nombreux, donc, on vient de l'entendre, qui souffrent de troubles du sommeil, qui se sont accentués avec la pandémie, les différents confinements, nos changements de mode de vie. Vous avez consulté le docteur Flamand-Rose, ici présente, pour venir à bout de ce problème. Vous nous raconterez comment ça s'est passé, mais d'abord expliquez-nous ce qui vous a amené à consulter une spécialiste. Ces troubles du sommeil, ça se concrétisait comment ?
Alors, ça se concrétisait par un sommeil très fractionné, comme votre invité le disait. Pas de problème d'endormissement, mais plutôt des nuits très fractionnées avec des réveils, peut-être 10, 15, 20 réveils au cours de la nuit. Donc un sommeil peu réparateur. Et je dirais le fait après de focaliser, quand on se réveille, on se focalise sur son réendormissement. Et c'est pour ça que je suis allé consulter, pour retrouver les clés pour pouvoir me réendormir paisiblement et ne pas avoir des périodes d'intersommeil trop longues.
Oui. Constance Flamand-Rose, comment est-ce que vous procédez quand vous recevez un patient comme Arnaud qu'on vient d'entendre ?
Alors déjà la question qu'il a exposée, qui était très importante, c'était est-ce qu'il y a un problème d'endormissement ou bien un problème de réveil nocturne ou bien les deux.
Ouais. Et on peut avoir la double peine aussi.
On peut avoir la double peine. Ouais. Ouais, tout à fait. Et là c'est vrai que le nombre de réveils nocturnes était quand même particulièrement important et voilà, avec un retentissement sur sa journée. Donc on a commencé vraiment à travailler de toute façon un petit peu comme une base sur la gestion du stress et de l'anxiété, parce que finalement on était dans un cercle vicieux et ça c'est souvent le cas. Le trouble du sommeil du coup génère du stress parce qu'on est en pensée monomaniaque sur « je ne vais pas réussir à dormir, je ne vais pas réussir à dormir, de toute façon je n'arrive pas à dormir et je n'arriverai plus à dormir ». Donc voilà, ça génère du stress et le stress empêche de dormir. Donc on est dans ce cercle vicieux qu'il faut casser et couper à un moment. Donc on commence par travailler là-dessus et ensuite avec des exercices d'hypnose et l'apprentissage de l'auto-hypnose sur des choses bien plus spécifiques au sommeil en lui-même. Ça peut être l'endormissement ou ça peut être dans la profondeur et la linéarité du sommeil.
Ça veut dire que vous allez aussi rechercher le lien profond qui peut amener à ces insomnies. Ça s'est passé comment, vos séances avec Constance Flamand-Rose, qui, je le rappelle, est hypnothérapeute. Vous êtes allée la voir, pourquoi ? Parce que vous aviez essayé les somnifères, que ça ne marchait pas ?
Justement, je ne voulais pas essayer de somnifères. Je ne voulais pas prendre de médicaments, parce que ça me semblait incompatible avec une activité professionnelle normale. Donc, je ne voulais pas avoir de somnolence dans la journée. Donc, on a vraiment travaillé sur l'auto-hypnose très rapidement. Moi, c'était une technique qui m'avait été conseillée par un de mes collègues de travail. Lui, il avait testé l'auto-hypnose pour lutter contre des douleurs neuropathiques après une amputation. Donc, c'est pour ça que je suis allé voir Constance.
Et ça a marché. Vous dormez mieux.
Je dors mieux. Il y a toujours la nuit est toujours entrecoupée parce que comme vous le disiez, la période de confinement, de manque d'activité, un retentissement sur la qualité du sommeil. Par contre, les périodes d'intersommeil sont beaucoup plus courtes et comme il y a moins de stress, les périodes de sommeil sont plus longues.
Et vous êtes reparti avec des enregistrements que vous pouvez réécouter chez vous quand vous avez de nouveau ces problèmes de sommeil.
Oui, effectivement, il y a les enregistrements des séances et après il y a tous les exercices de respiratoires, les exercices de concentration où Constance nous invite à faire un voyage dans notre tête, donc en visualisant des choses plus agréables. Ça peut être un voyage au bord de mer, se focaliser sur sa respiration et l'apaisement entraîne l'endormissement.
Merci beaucoup Arnaud Martin, en tout cas pour votre témoignage. C'est vrai, Sylvie Royan-Parola, vous êtes présidente du réseau Morphée, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément à qui s'adresser quand on a des troubles du sommeil. Est-ce qu'en priorité, il faut aller voir son pharmacien prendre des petites pilules magiques ? Est-ce qu'il faut aller voir son médecin ? Est-ce qu'il faut aller voir justement une spécialiste de l'hypnose thérapeutique ? Quelle est la première démarche à faire ?
La première démarche, c'est que il faut savoir que si c'est un problème qui est ponctuel, occasionnel, bon, là, effectivement, on peut demander éventuellement à son pharmacien, mais surtout, il faut surtout relativiser, c'est-à-dire qu'on peut tous mal dormir, et une nuit, deux nuits, trois nuits, ça, c'est pas un souci, c'est comme mal digéré. Le problème, c'est quand ça dure, et là, quand ça dure, je pense qu'il faut déjà une évaluation par un médecin, et qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et la solution n'est pas du tout nécessairement dans les médicaments, mais notamment dans les thérapies que l'on applique en tant que spécialiste du sommeil. Ce sont des thérapies avant tout comportementales et cognitives. Ceci étant, on ne crache pas sur les médicaments dans les périodes vraiment de crise. Et ça peut être une façon aussi d'aider les gens pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour passer un cap difficile. Donc oui, il y a besoin d'une évaluation médicale.
Bon, alors on va continuer à rassurer nos auditeurs. Les insomnies, ça n'est pas une fatalité. On va se retrouver dans un tout petit instant pour poursuivre ce débat.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
C'est la suite de votre débat sur Europe 1. On parle ce soir de ce mal du siècle, l'insomnie. L'insomnie, nous manquons de sommeil, mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas une fatalité. Et avec mes invités, on va continuer à vous donner les clés pour vous en sortir. À mes côtés, toujours le docteur Sylvie Royan-Parola, présidente du réseau Morphée, psychiatre, spécialiste des troubles du sommeil, Céline Martineau, médecin du sommeil au Centre interdisciplinaire du sommeil et Constance Flamand-Rose, qui est hypnothérapeute et docteur en neurosciences. Alors, je voudrais qu'on prenne le temps de donner des conseils concrets et ciblés parce qu'on n'est pas forcément tous égaux, on l'a bien compris, face à ces difficultés de sommeil. Alors par exemple, les enfants. Tous les parents qui nous écoutent ont vécu des réveils nocturnes, des questionnements, des angoisses. Comment faire pour aider son enfant à retrouver un sommeil apaisé ? Est-ce que vous avez des conseils pour tous ceux qui nous écoutent ce soir ? Sylvie Royan-Parola.
Je pense que les enfants n'ont pas été du tout ceux qui actuellement ont eu le plus de problèmes. Après, les problèmes de sommeil de l'enfant, oui, c'est une chose assez classique. Mais c'est souvent parce que il y a un temps où un enfant se réveille, enfin un bébé se réveille, c'est normal. Mais après, entre 3 et 6 mois, habituellement, il fait ses nuits. Et là, il y a vraiment des réponses qui sont liées à une approche très comportementale avec des habitudes et des routines qui à la fois rassurent l'enfant, mais qui lui laisse aussi un espace pour vivre son sommeil tout seul. Un des problèmes, c'est quand les parents n'arrivent pas à lâcher et accompagnent tellement l'enfant qu'à la fin, l'enfant, dès qu'il se réveille, il a besoin des parents pour se rendormir, donc ça devient vite un cercle totalement infernal.
Donc il faut renforcer les routines du soir qui rassurent, absolument, mais en même temps, il ne faut pas insister trop long, en disant « bonne voilà. nuit, je reviens, j'allume la lumière, voilà. je ferme la lumière, etc. »
Et plus le parent est disons, confortable dans cette routine de soir et pas anxieux par rapport au fait que l'enfant ne va pas dormir, mieux ça se passe. Donc on apprend un peu aux parents, il y a un forum sur le réseau Morphée notamment, qui donne beaucoup de conseils par rapport à ça et qui fonctionne bien parce qu'on a beaucoup de remerciements des parents qui sont dans des situations où finalement ils ne savent plus quoi faire. Eh bien, quand on voit un enfant qui dort mal, en général, en une consultation, c'est réglé.
On comprend que ça vient des parents, en réalité. C'est ce que vous nous dites souvent.
C'est une question d'habitude et que les parents n'ont pas compris qu'un enfant, c'est pas un adulte en miniature. Il a ses besoins propres, son rythme propre et aussi besoin d'une sécurité, mais une sécurité accompagnante, pas quelque chose d'étouffant où il ne peut pas trouver d'espace pour lui tout seul quand il dort.
Oui, c'est intéressant ce que vous nous dites. Ce n'est pas forcément facile à mettre en application. Non. Une fois qu'on a fini l'histoire du soir, par exemple, on s'en va et là, l'enfant repleure. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit « reste maman, reste papa ».
On peut revenir pour le dire, mais sans nécessairement le prendre dans les bras ou le caresser ou le sortir du lit, ce qui est encore pire. Donc il y a une distanciation qui permet à l'enfant de se rendre compte que il est en sécurité. Après, il peut y avoir un jour où il est particulièrement inquiet parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées. Et là, il faut bien sûr pouvoir répondre. Donc c'est très difficile. Il y a des parents qui y arrivent plus facilement que d'autres et certains pour lesquels c'est vraiment, ça les émeut tellement ou ça leur rappelle peut-être des choses hein, qu'eux-mêmes ont vécues, qu'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment confiance en eux et suffisamment rassurer l'enfant pour que ça se passe bien.
Bon, alors l'enfant, il a grandi, il est au lycée ou à la fac en ce moment. Son sommeil, ce n'est pas forcément sa priorité. Et pourtant, c'est là, hein, je pense qu'on a besoin de récupérer pour donner de l'énergie à son cerveau. Céline Martineau, je rappelle que vous êtes médecin du sommeil. En ce moment, les étudiants, ils vivent souvent dans un studio, ils ne sortent pas beaucoup de chez eux, ils suivent les cours sur un ordi. Ils souffrent hein, peut-être davantage que d'autres encore de la peur de l'avenir. Il y a les partiels, il y a bientôt le bac pour les lycéens. On leur donne quel conseil ce soir sur Europe 1 pour réussir malgré tout à conserver un sommeil réparateur ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que physiologiquement, les adolescents ont tendance à ce qu'on appelle le retard de phase, c'est-à-dire à se décaler, c'est-à-dire s'endormir tard et se réveiller tard. Et le fait de ne plus avoir de cours, de ne pas avoir un réveil imposé, ça a tendance et ça renforce en fait ce décalage et cet endormissement tardif. Et ça, c'est notamment aussi accentué par les écrans. C'est que les adolescents, les adultes en général, on a de plus en plus tendance à être sur des écrans le soir, mais chez les adolescents, c'est particulièrement important parce que ça retarde leur endormissement. Et le fait d'avoir ce décalage en fait, de rythme, ça déstructure finalement en fait, même leur journée, hein, que ce soit sur leur repas, sur leur activité, sur leur capacité cognitive. Donc c'est vraiment très important de leur dire qu'il faut tous les matins se réveiller à heure fixe, comme on faisait pour aller au lycée, pour aller à la fac. Et ça, c'est 7 jours sur 7, week-end compris. Il faut éviter au maximum de changer ses horaires.
Ils sont prêts à le faire ? Ils viennent vous consulter, par exemple, pour ça ?
Oui, ils viennent le faire. Au début, c'est compliqué et on leur explique que ça va être difficile, qu'ils vont même nous détester pendant les 15 premiers jours. Mais que s'ils tiennent, qu'ils maintiennent ce rythme, c'est comme un décalage horaire. Ça se fait et on reprend un rythme régulier. Et là, l'adolescent retrouve la force. Hein. Mais c'est vrai que ça passe aussi par le fait d'arriver à couper les écrans le soir.
Alors aujourd'hui, on est tous retombés en adolescence, hein, nous les actifs, dont le salon est devenu un bureau, qui passons la journée derrière notre ordinateur, qui consultons nos mails jusqu'à pas d'heure. Là encore, même conseil pour nous, les adultes ?
Oui, surtout pour les personnes qui sont en télétravail, il faut arriver à couper. Il y a une fin dans la journée, il y a une fin du travail, il y a une fin des ordinateurs. Il faut vraiment avoir ce sas de décompression pour faire autre chose et pour se préparer au sommeil.
Par exemple, faire l'amour.
Par exemple.
Bon, je dis ça parce que j'ai lu qu'il y avait une explosion des ventes de jouets pour adultes. C'est peut-être la solution, je ne sais pas, pour un sommeil apaisé. J'ouvre le débat. Il y a une autre catégorie de population qui traditionnellement souffre de troubles du sommeil. Ce sont les personnes âgées. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup, Constance Flamand-Rose, dans votre cabinet. Vous êtes hypnothérapeute. Pour elles aussi, ce moment, c'est encore plus compliqué. Là encore, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Comment est-ce que vous travaillez, entre guillemets, avec les personnes âgées?
Comme avec les autres, en leur racontant des histoires. Mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude de raconter des histoires à des enfants. Et finalement, les adultes, qu'ils soient jeunes actifs ou des personnes âgées, tout le monde aime qu'on vous raconte une histoire pour vous endormir. Et finalement, dans une séance d'hypnose, il y a toute une partie, comme ça, on fait appel à l'imaginaire et à l'imagerie mentale, qui va toujours être très, très liée au patient. Il n'y a pas de séance type... que je vais pouvoir ressortir d'un patient à l'autre comme ça, c'est vraiment.
Mais il y a des âges qui sont plus sensibles à cette technique de l'hypnose thérapeutique ou pas ?
Alors, la personne âgée peut avoir du mal parce, ouais. Parce que c'est aussi une question de génération. Hein. Je pensais, qu'est-ce que c'est que ces histoires de magie comme ça ? Moi, j'y crois pas. Puis
on
j'aime garder
dormir
le compte.
Et tout, alors que ouais, vous n'endormez pas les gens.
On leur apprend à dormir. Ouais. On les endort pas sur le fauteuil, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'ils apprennent dans l'après-midi à dormir le soir. Mais effectivement, ce côté, je vais perdre le contrôle et puis non, moi, je suis quelqu'un qui tient le coup, etc. Ça, c'est aussi une question de génération. Mais finalement, moi, je leur dis que c'est très, très bien parce que j'aime beaucoup qu'on garde le contrôle et qu'ils vont justement apprendre à reprendre le contrôle sur leur sommeil et à ce moment-là, après une séance, ça se passe vraiment très bien. Et une fois qu'ils ont réussi à dormir la première nuit, ils sont convaincus.
Bon, les Français sont les deuxièmes plus grands consommateurs de somnifères, me semble-t-il, en Europe. Et ça, bien sûr, c'est préoccupant. Sylvie Royan-Parola, on doit les éviter au maximum. Hein. J'imagine que c'est un dernier recours, les somnifères.
Tout à fait. Ce sont des médicaments de crise. Ce sont des médicaments aussi qui ont un intérêt quand il y a une pathologie psychiatrique associée, c'est-à-dire une anxiété sévère ou une dépression en période de crise, là aussi, pas dans quelque chose qui est chronique et qui fonctionne bien. Et donc, ça veut dire qu'il faut nécessairement savoir les arrêter, mais ça permet de passer un cap. Après, il y a aussi d'autres choses qui vont permettre de diminuer à la fois l'anxiété et même la dépression et améliorer le rythme. Il y a l'activité physique. Et notamment, quand on parle d'activité physique régulière, les gens pensent oh « ben, je fais de la gym deux fois par semaine, ça y est, c'est bien ». Et en fait, non, c'est vraiment...
Et on fait de la gym le matin plutôt, hein, parce que le soir, ça empêche
le matin,
de dormir. Ouais.
Mais c'est tous les jours, ou presque tous les jours, pas nécessairement longtemps, 20 minutes. 20 minutes suffira. Mais notamment en période de confinement, c'est extrêmement important de reprendre ce rythme-là et de mettre une routine qui permet de marquer les choses. Et d'autre part, sortir à l'extérieur pour pouvoir avoir cet apport qui va synchroniser notre horloge, ouais. Cet apport de lumière qui va synchroniser nos horloges. Et on voit des gens actuellement en confinement qui restent du matin à 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Il faut impérativement sortir le midi, faire au moins le tour du pâté de maison pour au moins avoir cette source de lumière qui nous permet de nous recaler et synchroniser notre sommeil.
Parce que la luminothérapie envoie beaucoup, hein, ces petits objets qu'on nous propose aujourd'hui, qui sont très à la mode, ça ne remplace pas la lumière.
Vous avez une luminothérapie gratuite, hein, il faut l'utiliser.
Bon, eh bien écoutez, on va essayer de suivre tous vos conseils et comme ça on va essayer de mieux dormir, hein, parce que je pense qu'on est tous plus ou moins concernés par ce débat de ce soir qui était passionnant. Merci à toutes les trois, Sylvie Royan-Parola, Céline Martineau, Constance Flamand-Rose. Constance, j'en profite pour conseiller la lecture de votre livre passionnant, Le corps est le seul langage qui ne ment pas, 25 histoires d'hypnose, c'est absolument fascinant.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
On est toujours ensemble sur Europe 1 et dans le Club des idées. On va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle Le Jour Où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Bonsoir Nicolas Caro.
Bonsoir Isabelle.
Alors c'était il y a 50 ans, 19 mars 1971, les téléspectateurs français découvraient la série Arsène Lupin.
Le bouchon de cristal, c'est le titre du premier épisode diffusé sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Vous avez reconnu le générique. L'adaptation, bien sûr, des romans de Maurice Leblanc, Les aventures du gentleman cambrioleur, avec Georges Descrières dans le rôle d'Arsène Lupin, Marthe Keller et Roger Carrel dans le rôle du commissaire Guerchard. 2 saisons, 26 épisodes seulement, À l'occasion d'une autre adaptation au cinéma en 2004, Georges Descrières avait expliqué sur Europe 1 pourquoi, selon lui, Arsène Lupin ne se démode jamais.
Mais parce que Arsène Lupin est éternel. Non seulement il a existé dans l'esprit de Maurice Leblanc, mais vous voyez qu'on en parle encore. Et puis c'est un être qui rétablit la justice, qui défend la veuve et l'orphelin. Donc vous voyez que c'est très attachant cela.
Alors Nicolas, la série avec Georges Descrières, évidemment, est célébrissime, mais effectivement, c'est loin d'être la seule. Hein.
C'est vrai. En 1962, par exemple, Jean-Claude Brialy jouait dans le film d'Edouard Molinaro, Arsène Lupin contre Arsène Lupin. Jean-Claude Brialy qui nous en donne le synopsis.
Avec Jean-Pierre Cassel, donc j'espère que le film sera charmant. Enfin, on s'amuse beaucoup en le tournant. Au début du film, Arsène Lupin est mort. Nous suivons l'enterrement tous les deux et on s'aperçoit qu'on est les deux fils naturels d'Arsène Lupin. Cassel est le fils pauvre de Lupin, alors avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire de gentillesse, de tendresse, d'humain. Et puis moi, je suis évidemment le fils né d'une vicomtesse un peu cocotte et de Lupin, et je suis un fils, comme d'habitude, cynique, hautain, je vole pour le plaisir de voler.
Alors Jean-Claude Brialy, mais Romain Duris également hein, a joué le gentleman cambrioleur.
Oui, et le point commun entre tous ces acteurs qui jouent ce même rôle, c'est la jubilation et l'admiration pour ce personnage. Romain Duris chez Dominique Souchier.
Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans certains romans, mais pas dans tous, hein. Après, il y a des nouvelles. Bref, il y a dans certains romans des démonstrations comme ça de l'intelligence d'Arsène Lupin qui se trouvent en 20 pages. C'est-à-dire que d'un coup, Arsène Lupin arrive dans une salle, il a 5 personnes en face de lui. Pour nous, lecteurs, il est foutu et il n'arrivera jamais à s'en sortir. Et d'un coup, pendant 20 pages, Maurice Leblanc fait une démonstration de l'intelligence. Et il se sort au final, au bout des 20 pages, on se rend compte que chaque personnage en face de lui est foutu à sa place et il peut s'en aller et il est gagnant.
Et il n'y a pas que les acteurs hein, qui sont fascinés par Arsène Lupin, des cambrioleurs, des vrais s'en sont inspirés.
Mais oui, comme en 71, l'année de la diffusion du feuilleton, justement, en septembre, Simon Schneider a été arrêté. Il était surnommé le Arsène Lupin alsacien. Des cambriolages sans violence, mais avec déguisement parfois et du panache. Menottes au poignet, il répond au journaliste d'Europe 1, Claude Bellet.
Est-ce que vous avez pensé ce matin qu'il vous restait une petite chance quand même malgré tout ?
Non, je ne pense pas.
Est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait, c'est-à-dire sortir seul et sans armes, est-ce que vous pensez que finalement c'est la meilleure solution pour tout le monde ?
C'était la meilleure, oui, de part et d'autre, oui.
Pour vous, c'est un peu la fin d'une carrière et d'une légende. Vous étiez le gentleman cambriolaire, l'Arsène Lupin strasbourgeois. Et vous ne vous êtes pas rendu compte que les policiers vous cernaient ?
Non, juste ce matin quand on a entendu les sommations de la police.
Elle est incroyable cette interview quand même.
À l'époque, on interrogeait les types qui venaient de se faire
c'est
arrêter.
Fou, c'est fou,
poignet,
c'est fou. En tout cas, le mythe perdure puisque la série Netflix avec Omar Sy qui s'inspire d'Arsène Lupin est un carton. On attend la suite avec impatience. Merci beaucoup Nicolas Caro.
Merci.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actu avec Julien Pierce et puis Back to Live. C'est la DR ce soir, Émilie Mazoyer.
Ah, chère Isabelle, ce soir, c'est la dernière et pas des moindres soirée Back to Live cette semaine. Les artistes qui remontent sur scène ici à Europe 1 au studio Bellemare. Oh, ce soir, on est ravis d'accueillir Julien Clerc. Il y aura Kerenan, il y aura Noé Préchauffe, un nouveau talent, et puis Hervé. Hervé qui vient de recevoir la victoire de la révélation masculine de l'année.
Quel programme encore, vous finissez en beauté. Merci Émilie Mazoyer, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Lundi, 18h, vous retrouverez Julien Bugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.